Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IGEOBOX consacré aujourd'hui à la résistible ascension de l'extrême droite en France avec un fil directeur, les chansons contre le FN.
Dans un pays d'extrême droite, on se torche avec les doigts, y'a plus d'urgence pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats, des syndicats y'en a pas.
L'extrême droite française sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle elle a collaboré avec l'Allemagne nazie et mené une politique xénophobe et antisémite. Pendant une dizaine d'années, ses partisans font alors figure de paria. En 1988, les Rita Mitsouko enregistrent Le Petit Train, détournement d'une chanson d'André Claveau sur une musique enjouée et des paroles en apparence légères. Le groupe décrit le processus de déportation et d'extermination des Juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. À l'heure où les négationnistes s'emploient à nier l'existence des chambres à gaz, les paroles laissent poindre une inquiétude diffuse. Au mi-temps des années 1950, Pierre Poujade, papetier du Lot, se fait un nom autour d'un programme antifiscal, antiparlementaire, anticommuniste, xénophobe et nationaliste. Son électorat se recrute chez les petits propriétaires, commerçants et artisans. Parmi les députés poujadistes accédant au Palais Bourbon en 1956, figure Jean-Marie Le Pen, 27 ans. L'homme est ambitieux, bon orateur, dénué de scrupules, profondément anticommuniste et attaché à l'Empire colonial. En mars 1956, Guy Mollet engage le contingent en Algérie. Le Pen décide de quitter l'hémicycle en octobre pour rejoindre le 1er régiment de parachutistes. L'Algérie française cimente alors toutes les droites radicales convaincues que seule la préservation de l'Empire colonial assurera le rayonnement mondial de la France. Sur place, le Breton pratique et justifie la torture. Sarcastique, Maxime Le Forestier dresse le portrait d'un parachutiste qui pourrait être le lieutenant Le Pen.
Tu torturais un spécialiste parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste parachutiste.
Au printemps 1957, le député Parra rentre à Paris alors que le phénomène poujadiste périclite. Le Pen reste un partisan acharné de l'Algérie française, une cause perdue mais un outil idéologique puissant pour la droite nationaliste. Il se complaît désormais dans le ressentiment et prophétise une colonisation à rebours. Il affirme « Si vous ne faites pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne ». Lors de la présidentielle de 1965, Le Pen est le directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, l'ancien ministre de Pétain. Il anime les meetings et s'impose comme un orateur redoutable, sans succès puisque Tixier n'obtient que 5% des voix. Le Pen connaît alors une traversée du désert politique. Pour vivre, il fonde la SERP, une société d'édition de disques militants dont le catalogue comprend discours de dictateurs, musique militaire et chants nazis. Les affaires ne semblent guère florissantes, mais la boutique devient le point de ralliement des diverses composantes de l'extrême droite française. Catho-intégriste, nostalgique de l'Algérie française, nationaliste, identitaire, etc.
Méfie-toi, camarade. Les fachos reviendront avec leur grand drapeau et la même chanson pleine d'un sang nouveau. Méfie-toi, camarade. Les fachos se réveillent.
À l'automne 1972, le mouvement Ordre Nouveau se dote d'une vitrine légale, un parti politique, le Front National, présenté comme le rassemblement de, je cite, « la droite sociale, populaire et nationale ». Jean-Marie Le Pen est appelé à la tête de la jeune formation. L'homme a une expérience politique et possède un énorme carnet d'adresses. C'est un tribun et un militant déterminé. Ainsi, il parvient à unifier sous la bannière du Front National et derrière son nom la quasi-totalité de la droite nationaliste française. Il s'impose comme le leader incontesté de la droite radicale, xénophobe, se présentant comme la seule véritable opposition aux parlementaires corrompus. Il convoque le mythe d'une France éternelle qui s'inscrirait dans une continuité historique, invitant les jeunes générations à se glisser dans les pas des ancêtres, une rhétorique excluant de fait tout nouveau venu. Le parti emprunte le logo du parti néofasciste italien MSI, une flamme tricolore.
Et trop longtemps qu'ils avancent. Alors, j'en appelle à la résistance. La flamme, la flamme a grandi. Dans son endroit, le feu a pris. Faut-il la moindre bébouille pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi.
En 1998, avec La Flamme que nous venons d'entendre, Sinsémilia en appelle à la résistance face à la progression des idées lepénistes. Le titre du morceau se réfère bien sûr au logo du Front National. À la présidentielle de 1974, Le Pen ne réunit encore que 0,74% des suffrages. Un résultat ridicule, mais désormais, l'homme devient aux yeux de sa famille politique le chef incontesté de l'extrême droite. La campagne lui a permis de se faire connaître et de comprendre la nécessité de soigner son look, ce qui l'incite à troquer le bandeau noir pour l'œil de verre. En 1976, il bénéficie d'une manne financière considérable en héritant de Hubert Lambert, richissime homme d'affaires et sympathisant d'extrême droite. Le choc pétrolier et la crise économique qui pointe constituent une aubaine pour Le Pen, qui ne cesse d'opposer les petits aux élites, les Français aux cosmopolites, entre guillemets. Il troque la question coloniale pour la question sociale. Les mutations de la société française sont exploitées à des fins nationalistes. Lors des législatives de 1978 déjà, Le Pen entend éradiquer le chômage par la réduction de l'immigration. Il use de formules choc, simplistes et démagogiques. Ainsi, le slogan d'une affiche du Front National proclame qu'un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop.
Dehors, dehors, les étrangers, c'est leur honneur des âmes civilisées. Quoi l'on garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça recommence.
Avec Voilà, voilà, que nous venons d'entendre, Rachida déplore la résurgence des idées racistes qui font des immigrés, encore et toujours, les responsables de tous les maux. Faute d'avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires, Le Pen ne participe pas à l'élection présidentielle de 1981. Mais la fin de la censure audiovisuelle, voulue par le nouveau président Mitterrand, permet aux leaders frontistes d'obtenir des passages télé. Les propos scandaleux distillés à intervalles réguliers, la complaisance médiatique à l'égard de son bon client, font que la verve empoisonnée fait mouche. Le cordon sanitaire qui retenait jusque-là la droite dite républicaine de pactiser avec le FN finit par céder. En 1983, l'UDF, le RPR et le FN font liste commune lors du second tour d'une élection municipale partielle à Dreux. Une dizaine de frontistes accèdent au conseil municipal. Prolongeant cette dynamique, le parti recueille 11,4% des suffrages aux élections européennes de 1984. Ces succès électoraux inspirent Anne Masseran à Louis Chédid en 1985. Alors que l'extrême droite obtient un succès croissant, le chanteur s'emploie à rafraîchir la mémoire de ses auditeurs en convoquant un passé qui ne passe pas, ainsi que le fantôme d'Anne Frank. Au moment où les idées du front se banalisent, le chanteur fustige la complaisance à l'égard de la nazi-nostalgie.
Elle ressort de sa tanière, la nazi-nostalgie. Croix gammée, bottes à clous. La voilà revenue, l'historique hystérie.
Pour regagner les électeurs partis au FN, la droite traditionnelle reprend à son compte le discours lepéniste. En 1991, lors d'une réunion, Jacques Chirac chasse sur les tirs du Front National en s'inscrivant dans une surenchère xénophobe. Ce faisant, il tombe dans le piège tendu par François Duprat. Ce théoricien de l'extrême droite a mené une bataille culturelle consistant à imposer le vocabulaire et les thèmes frontistes à droite. La stratégie fonctionne, au seul bénéfice du FN, car comme le surligne à longueur d'interview Le Pen, les lecteurs préfèrent toujours l'original de la copie. Le morceau « Le bruit et l'odeur » du groupe toulousain Zebda reprend les mots de Chirac dans son titre, pour mieux pointer aussitôt les contradictions de ceux qui n'envisagent les immigrés que comme un poids, oubliant le rôle économique crucial et indispensable qu'ils jouent dans le pays.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente,
voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place Guido Henri Gino Ali, je ne suis pas de glace.
La sémantique joue un rôle central pour Le Pen, qui envisage le chômage comme un cancer social, les malades du sida comme des lépreux modernes. Le leader frontiste a une conception organique de la société. Le corps se définit par la filiation, le respect dû aux ancêtres. Cet organicisme fait qu'on ne peut pas accueillir de corps étrangers qui menaceraient la pureté du corps social. Ainsi, dans l'optique frontiste, les chômeurs, les immigrés deviennent des dangers. Le groupe Ragasonic dénonce ce discours chauvin des obsédés du bleu-blanc-rouge.
Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh.
En 1986, à la faveur de l'adoption du scrutin proportionnel, 35 députés du Front National accèdent à l'hémicycle. L'échec de la politique de relance mitterrandienne qu'entérine le virage de la rigueur, puis les politiques libérales de la droite détournent de nombreux électeurs des partis politiques traditionnels. Le déclin du militantisme politique et syndical, l'absence de perspectives collectives, la dégradation des conditions de vie contribuent également à la progression de l'extrême droite, qui parvient à exploiter à son profit un contexte socio-économique difficile. Le parti connaît sa fulgurante ascension alors que désindustrialisation, chômage de masse et peur du déclassement frappent durement. Cet essor suscite des réactions d'inquiétude et d'hostilité. Sur scène, au moment où le FN connaît ses premiers succès électoraux, le Berrurier Noir interprète son titre « Porcherie », une violente charge contre Le Pen et ses idées. Chauffé par son public, le groupe ajoute un mini-couplet rageur dont la phrase conclusive devient un slogan fédérateur. La jeunesse emmerde le Front National.
Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National.
Au printemps 1987, alors que se déroule le procès Barbie, Le Pen affirme lors d'un entretien diffusé sur RTL que les chambres à gaz ne sont qu'un point détail de la Seconde Guerre mondiale. Ces propos antisémites provoquent l'ostracisme temporaire du leader frontiste, mais lui permettent également de séduire de nouveaux électeurs. D'aucuns plébiscitent un soi-disant « parler vrai, sans tabou » de Le Pen, qui trancherait avec la langue de bois du reste de la classe politique. Le Pen peut désormais se victimiser à loisir, affirmant à qui veut l'entendre que les médias cherchent à le faire taire. Avec un bon français, la maison Tellier donne à entendre le monologue pitoyable d'un salaud ordinaire. L'ignorance, la peur, la méchanceté le conduisent à dénoncer son voisin parce qu'étranger ou différent. La référence au corbeau peut être vue comme un clin d'œil au film de Clouseau ou au célèbre Chant des partisans.
Ces gens-là sont différents, je ne reconnais pas leur accent. Que va devenir notre France si l'on ne peut pas dire ce qu'on pense? J'entends déjà sur la plaine le vol noir de jet. Toujours les cordes reviennent, signer un bon français.
Figure désormais connue de tous, le leader frontiste ne voit plus la nécessité de prendre des précautions oratoires. Il provoque et adore ça. Financé par la secte Moon, Le Pen arrive en quatrième position de la présidentielle 1988, recueillant un peu plus de 14% des suffrages. Quatre ans plus tard, la liste frontiste régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur obtient 23% des suffrages, après avoir développé un discours violemment anti-immigré. Le Poulaillet Song de Souchon fustige la bêtise raciste. Et si la chanson date de 1977, elle reste malheureusement toujours autant d'actualité.
pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir.
Aux élections présidentielles de 1995, Le Pen stagne à 15%. C'est alors que Bruno Maigret, un haut fonctionnaire, croit voir son heure sonner. Libéral en économie, il adopte une conception ethnique de la société. Après avoir été membre du RPR de Chirac, Maigret rallie le FN où il place ses fidèles. En 1995, Toulon, Marignane et Orange sont gagnés par le Parti à la Flamme. C'est la première fois qu'il revient au pouvoir depuis Vichy, non sans créer de vives tensions et susciter l'indignation des artistes. Dans Tout semble si, Zebda appelle à la vigilance.
N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent.
Les Marseillais du Massilia Sound System déplorent la montée de l'intolérance dans la cité phocéenne.
La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, devant le Maine jusqu'aux Égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade.
Enfin, le suprême NTM déplore que dans sa ville, Saint-Denis, le borgne sénile s'amuse à faire un score de 25%.
Les honneurs, la patrie, les conquêtes et les colonies. On a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibré mental? Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal, et ce depuis la déconvenue de la guerre d'Algérie qui n'a pas digéré. Mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Et on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma.
20 ans après la création du FN, Le Pen est devenu un poids lourd de la politique nationale. Son parti est parvenu à imposer ses thématiques favorites à l'agenda politique. Les progrès électoraux sont manifestes, mais bien peu d'observateurs jugent crédible l'accession d'un candidat de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Et pourtant. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et, comme vous vous en doutez, il aura une suite très prochainement. A bientôt.